19h25, vous écoutez Mathieu Bellière sur Europe 1.
Et on dit bonsoir aux grandes voix d'Europe 1 qui sont en studio comme tous les vendredis, avec ce soir Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Gérard Carrérou qui est avec nous. Bonsoir Gérard.
Bonsoir Mathieu.
Et Charles Villeneuve qui peaufine ses dernières notes, qui travaille. Bonsoir Charles.
Je travaille tout le temps.
Non, c'est vrai en plus.
Bonsoir.
Benjamin Muller, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir les grandes voix.
Alors vous le savez, d'habitude à cette heure-ci, Benjamin aime résumer comment un fait de l'actualité est traité dans différents médias, télé comme radio.
Oui,
aujourd'hui,
oui.
Les gilets jaunes.
D'ailleurs.
Les gilets jaunes, mais attention, uniquement sur Europe 1.
Alors pour être précis, uniquement dans votre tranche, mon cher Mathieu, parce que c'est vrai que vous avez reçu beaucoup d'appels d'auditeurs d'Europe 1 sur ce sujet. Du coup, je me mets à votre place. Votre semaine a dû être un peu, comment dire, répétitive.
Porterez-vous le gilet jaune? C'est la question que nous posons. La question est systématique à chaque auditeur qui intervient. Hélène, est-ce que vous serez dans la rue samedi avec les gilets jaunes? Parce que je pourrais vous parler des gilets jaunes, mais on va des manifestations qui se préparent partout en France.
Oui.
Celle
des gilets jaunes. Oui,
et puis j'ai parlé des gilets jaunes.
Non Mathieu, non, pas encore, vous n'avez pas encore parlé. Alors de nombreux appels dès lundi, par exemple avec Stéphane, un auditeur plus ou moins pacifiste.
À un moment donné, vous voyez, en 1789, si les gens s'étaient contentés de manifester devant Versailles, on serait toujours une monarchie.
Ok, un nouveau 1789, c'est parti sur de bonnes bases lundi. Mardi, là encore beaucoup d'appels, dont votre vieux pote Mathieu, votre pote Patrick qui nous a appelé, c'est sympa de sa part d'ailleurs.
Et Patrick est en direct avec nous depuis la Nièvre ce soir, bonsoir Patrick.
Bonsoir, comment vas-tu?
Pas trop mal.
Alors, mon petit Mathieu, tu viens toujours à la maison dimanche? Alors, c'est bien, on se tutoie, c'est bonne ambiance, tout ça. Sauf que Patrick, à un moment, Mathieu, il vous a engueulé.
Comment veux-tu que le peuple, qui a des minimums de retraite à 850 euros, puisse remplir une cuve à fioul de 1000 litres?
Alors, Mathieu, tu réponds? Bon, alors, l'ambiance est un peu tendue, ça c'était mardi, et vous, vous aimez pas ça, les tensions. Du coup, pour détendre tout le monde, vous vous êtes tourné vers Omblin et vous lui avez demandé: Omblin, samedi, vous allez mettre un gilet jaune?
Pas de gilet jaune, plutôt des collants en lycra et des shorts déchirés.
Eh ben dis donc, qu'est-ce que c'est que cette soirée, ma chère Omblin? On continue parce qu'on ne juge pas. Ici, mercredi soir, Macron était sur TF1 et juste avant, Réjeanne nous a appelé au 39-21.
Et on avait d'ailleurs décidé tous ensemble de boycotter de Macron. Personne ne l'écoutera. Donc c'est pas la peine qu'il s'égosille à lui parler à la télé. Tout le monde est à l'attention d'éteindre son téléviseur.
Et franchement, c'est dommage. Réjeanne, si vous nous écoutez en ce moment, sachez que vous avez raté ça.
Je l'ai déjà dit, moi je ne suis pas parfait.
Voilà, ça valait le coup de regarder. On avance, jeudi, Hélène vous a appelé. Vous, Mathieu, le jeudi, vous voyez le week-end se profiler, alors vous avez l'esprit de taquin.
Oh, bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Vous êtes dans l'Aisne, Hélène.
Exactement.
Voilà, joli Mathieu, ça passe. Ça passe. Et donc, question pour Hélène de l'Aisne.
Est-ce que vous serez dans la rue samedi? Est-ce que vous mobilisez avec les gilets jaunes?
Alors, absolument pas. Quand je mets mon gilet jaune, c'est pour faire du vélo.
Bah oui, hein. Si on veut être sincère, il y a aussi eu pas mal d'appels de gens qui disent qu'ils n'iront pas manifester. Demain, on arrive à vendredi. Aujourd'hui, on retiendra cet appel de Marie, très contente d'être passée sur Europe 1.
D'accord.
Mais merci
et
beaucoup
faire toute
pour
l'antenne avec nous.
Je l'écoute tous les soirs sur la route pendant que je pollue.
Voilà.
C'était tout à l'heure.
Marie qui pollue, on l'embrasse. On souhaite donc, en ce vendredi soir, une bonne balade en vélo à Hélène Delaine, une bonne manif aux autres, et puis surtout, Omblin, bon week-end.
Pas de gilet jaune, plutôt des collants en lycra,
oui,
et des shorts déchirés.
Oui, on sait.
Ouais, mais c'est indémodable, que voulez-vous.
Rien n'échappe à Benjamin Muller. Il est 19h28, merci Benjamin. Et c'est vrai qu'on taquine nos concurrents et néanmoins amis. Cela dit, il y a des choses à dire sur ce qui se passe ici le soir sur Europe 1. Avec vous au 39-21, vous êtes entendu, vous êtes reconnu, 19h28.
Europe 1.
Que vous soyez d'ailleurs pour ou contre, que vous souteniez ou non cette mobilisation des gilets jaunes, on va essayer de lire entre les lignes, de comprendre ce mouvement et de, même si on ne sait pas combien il y aura de gens dans la rue, combien seront en train de manifester, de bloquer, on va voilà avancer toujours comme nous le faisons depuis le début avec vos appels au 39-21, avec les grandes voix qui sont en studio. Il est 19h28.
Vous écoutez Mathieu Bellière sur Europe 1 et le vendredi, les grandes voix d'Europe 1. À vos côtés, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Porterez-vous, chers amis, un gilet jaune demain? Je crois pas. Je crois que vous êtes passionné d'info et que vous serez devant les chaînes d'info à regarder s'il y a du monde.
Ou dans la rue pour regarder de toute façon.
Nous, c'est plutôt dans la rue.
Sur le terrain. Mon cher Charles Villeneuve, oui. La question qu'on se pose, c'est évidemment, est-ce qu'il y aura du monde? Vous avez entendu peut-être Nicolas Bavrez qui était avec Sonia Mabrouk, qui parle de jacquerie numérique.
Oui, c'est vrai, mais il a raison, puisque ce sont les réseaux sociaux qui ont spontanément multiplié l'appel justement de la Madone, si vous voulez, du numérique, la nouvelle
autres,
Madone du numérique.
Jacqueline
il y a eu
Moreau.
La Madone des je sais plus quoi d'ailleurs, mais enfin des aéroports. Et là, il y a la Madone de cette jacquerie numérique.
C'est facile
vrai.
De cliquer, de partager.
Oui,
ensuite,
c'est
faut
une
aller
autre
dans,
chose
dans
que d'aller.
Bloquée.
Mais enfin, moi, je trouve que il est très difficile, évidemment, de prédire le succès ou l'échec de la mobilisation. Mais d'ores et déjà, on peut dire que les Gilets jaunes ont gagné la première manche. Pourquoi? parce qu'ils ont obligé le gouvernement à prendre des mesures, de sortir, si vous voulez, de leur quant à soi, de l'exécutif. Le Premier ministre a pris déjà une batterie de mesures qui coûteront 500 millions supplémentaires sur 10 milliards qui seront consacrés chaque année à la transition écologique. Une prime qui passe de 2000 à 4000 euros pour les 20% des gros rouleurs. Un permis de conduire moins coûteux. Édouard Philippe a reconnu qu'il était dans l'urgence. Et puis, évidemment, on a d'abord proposé une batterie de mesures, mais aussi on a menacé, en quelque sorte. Chacun y est allé. Le Premier ministre, plutôt dans l'urgence, en effet, mais plutôt doucement, tandis que le ministre de l'Intérieur, lui, a bien dit que si on bloquait les péages, si on bloquait les axes de circulation, où s'exerce la liberté de circuler, surtout un week-end, surtout un samedi, eh bien, ils pouvaient aussi prélever les permis de conduire. C'est la menace, à mon avis, qui est prise la plus au sérieux.
C'est intéressant ce que dit Charles. On est sur une première manche gagnée, remportée par les Gilets jaunes, puisqu'ils sont devenus maîtres des horloges, si je vous suis bien, Charles. Ils ont obligé le gouvernement à se mettre à leur diapason. Gérard.
Oui, tout à fait. Ils ont gagné effectivement la première manche parce que l'écho extraordinaire, depuis un certain nombre de jours, on ne parle à peu près que de ça, ici à Europe 1, sur toutes les chaînes d'infos, etc., partout. Et plus encore, ce qui est plus intéressant, c'est les gens entre eux, dans les conversations quotidiennes, au bistrot,
mais d'ailleurs,
ou en famille.
Mais d'ailleurs, se pose, Gérard, la question que nous a posée Mathieu. Oui. Est-ce que demain, vous allez avoir un gilet jaune?
Alors, il y a deux choses. Il y en a une qu'on ne connaît pas, et franchement, à part de faire les devinettes, on ne peut pas dire ce soir, ça va être absolument extraordinaire, massif, etc.
C'est
ou
vrai.
Au contraire, ça va être maigrichon, et vous verrez qu'on aura fait beaucoup de trucs. Ça, on ne peut pas y répondre ce soir. J'ai quand même un peu tendance à penser que ça sera plutôt du côté de beaucoup de monde que du côté de pas beaucoup de monde. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la nature de ce mouvement. Vous voyez bien dans ce que vous avez diffusé tout à l'heure, il y a des gens qui vous parlent de la Révolution française, il y en a d'autres qui parlent des jacqueries du Moyen-Âge, il y en a d'autres qui vous parlent de la Fronde contre Mazarin, etc.
Mais c'est vrai, Gérard, pardon de t'interrompre, que ça n'est pas évidemment les révoltes du pain, mais ça peut être comparé d'une manière moderne.
Pas dit que c'était ridicule, les comparaisons. Simplement, ce que je voudrais essayer de voir, moi, c'est s'il y a eu des choses comme ça dans les 50 dernières... On vit, en gros, sous la 5e République,
il y a
50 ans. Est-ce qu'on a eu l'équivalent depuis 50 ans?
Non.
On avait eu des signes précurseurs.
Non.
On avait eu des mouvements. Effectivement, on avait eu quand même les bonnets rouges en Bretagne. On avait eu aussi des bouquins. Attention, les territoires perdus de la République. On sentait monter la France d'en bas contre la France d'en haut. Et là, c'est exactement le mouvement de demain, c'est la traduction de cette montée de la France d'en bas. En fait, je le résumerai d'un mot, c'est pour la première fois, c'est pas de gauche-droite, c'est l'immense classe moyenne, petite classe moyenne, middle classe moyenne et classe moyenne supérieure qui se révolte parce qu'elle ne se sent plus comprise, en tout cas dans les campagnes, dans les petites villes, dans les villes moyennes. Et c'est plus faible dans les grandes villes parce que le malaise est moins fort dans les très grandes villes.
J'ajouterai une caractéristique, pardon, Catherine. Cette caractéristique, c'est que cette levée en masse, ou en tout cas nombreuse, se fait sans les corps intermédiaires. Et personne n'avait vu venir Macron, qui souhaitait d'ailleurs réussir sans les corps intermédiaires et s'en débarrasser. Or là, je dirais à son corps défendant qu'il a réussi.
Oui, Catherine, c'est le vrai changement.
Aujourd'hui, c'est vrai que les médiations classiques sont affaiblies, que ce soit les partis, les syndicats, on ne fait plus appel à eux. D'ailleurs, on les entend plus. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience des citoyens de voir, mais regardez quel est mon pouvoir par Internet, ma voix porte. Et là, tout d'un coup, il y a une communauté de Français, des gens qui forment une communauté. Combien de temps va-t-elle durer? Parce qu'au même moment, ils pensent la même chose. Ils veulent, et donc, ils s'organisent. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir sur le terrain. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs maires au téléphone qui disent, mais c'est 300, 400 personnes dans les petites villes, mais qui travaillent depuis plusieurs jours, qui se réunissent sur les parkings des grandes surfaces, des hypermarchés, qui ont un plan de la ville, qui savent comment bloquer une ville. Et vous savez, il suffit de 300 personnes. personnes pour bloquer la ville. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont être suivis demain? Et est-ce que, s'ils ne sont que 300, enfin, je veux dire, est-ce qu'ils auront du courage? Tout dépendra de la météo, l'âge aussi qu'ils ont pour être dehors longtemps, s'il fait froid, vous voyez.
On ne le sait pas. Il va faire beau, mais froid demain.
Il va faire beau, mais froid. Donc, on peut s'enrhumer, donc, quand on est âgé, parce que j'ai vu plusieurs, il y avait plusieurs reportages où on voyait des gens qui avaient un certain âge, des retraités. Donc, on ne sait pas. En tous les cas, il y a le bonheur de se dire que tout d'un coup, ma voix compte, je suis entendue, on est ensemble. Il faudra bien que ça change parce qu'on va nous écouter.
19h38. Europe 1. Au passage, j'ajoute que demain, de 6h à minuit, en temps réel, sur Europe1.fr, vous serez tenu informé des points, des principaux points de blocage. Évidemment, certains sont pour, certains sont contre, d'autres n'ont pas un avis tranché, ont simplement envie de se déplacer. Consultez Europe1.fr aussi pour de l'info pratique vous concernant, où que vous soyez dans le pays. N'hésitez pas demain à avoir ce réflexe sur votre smartphone. Il est 19h38.
Vous écoutez Mathieu Bellière sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Catherine Néjar, Carrérou et Charles Villeneuve.
Et Charles Villeneuve, il va falloir qu'on se pose la question aussi, on verra s'il y a du monde ou pas, effectivement on ne le sait pas, qu'on se pose la question des conséquences pour la suite. Est-ce que s'il y a du monde demain, si vraiment il y a blocage, on est samedi, demain, est-ce qu'il y aura des conséquences à ce mouvement des Gilets jaunes,
déjà,
des suites?
S'il y a du monde demain, massivement, ils seront tentés, je dis ils, c'est-à-dire ceux qui émergeront, parce que, vous savez, on dit il n'y a pas de leader, etc. Chaque fois qu'il y a des grands concours de foule ou de population, il se dégage de la foule un type qui monte sur un tabouret ou qui monte sur le toit d'une bagnole, qui harangue les autres et qui dit « Mes amis, on a gagné, demain il faut que nous soyons à nouveau là et tout le monde repart ». Donc ça peut être ça aussi le signal de demain.
Et puis, ce qui sera changé. Or, en attendant de voir apparaître de nouveaux visages leaders, effectivement, c'est la notion de protestation sociale qui aura changé. Et si vous voulez, elle aura changé en ce sens où ce sera l'expression d'un clivage qui aura surgi le pays, le fond du pays contre les élites. Parce qu'il n'y a pas de corps intermédiaire dans cette affaire. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti politique. Catherine l'a dit tout à l'heure, Gérard l'a répété, et c'est fondamental. Parce que tous les pouvoirs vont se retrouver mis en cause. Parce qu'il n'y a pas que le pouvoir de l'exécutif.
Les syndicats tous les sont ennuyés comme jamais. Là.
Absolument.
Là, c'est une cause qu'ils auraient pu défendre.
Ce qui est mis en cause, Charles, je suis d'accord avec ça. L'élection présidentielle avait quelque part donné l'impression d'un grand chambardement dans notre vie politique. C'était effectivement. Ce chambardement est venu par le plus haut de la pyramide, c'est-à-dire par le poste du président de la République. Et beaucoup de gens ont espéré, dans le sillage de la campagne, et notamment dans le sillage de la campagne d'Emmanuel Macron, que ce chambardement allait se traduire au niveau de l'organisation de leur société, et surtout de leur vie quotidienne, et qu'il y aurait des changements. Ils s'aperçoivent au bout d'un an et demi qu'au niveau des changements de leur vie quotidienne, il n'y en a pas vraiment, en tout cas dans ce qui les touche au plus profond du quotidien. Et donc, c'est cette colère. Vous savez, quand on est séduit par quelqu'un, et puis un jour on est déçu, il n'y a rien de pire que la déception. Je crois qu'il y a, dans ce mouvement, le résultat d'une immense... Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller demain avec le gilet...
Qui ont voté Macron.
Qui ont voté Macron, forcément.
Catherine.
Oui, mais là, on voit très bien que sur le terrain... Les gens en veulent au président d'avoir si mal, d'avoir une mauvaise compréhension du mode, de leur mode de vie, quoi. Là, je veux dire, augmenter le fuel, ça a été quelque chose qu'ils n'ont pas compris avec les 80 km/h. Là, je crois que c'est quelque chose qui a monté. Il y a une sorte de malaise. Bon, ils vont manifester demain. Mais ils vont manifester, ils vont créer des nuisances à qui ? Pas tellement au gouvernement qui va regretter. Ils vont bloquer des villes, ils vont nuire aux commerçants du centre-ville, qui pourront peut-être même pas accéder à leurs magasins, parce que souvent ils habitent pas en ville mais à l'extérieur. Qu'est-ce qui va passer ? Et je veux dire, ça va créer quelle tension à l'intérieur de la société ? C'est-à-dire, qui va en pâtir de ce mouvement ? Qui va gagner ? Qui va en pâtir ? Parce que ça peut créer aussi beaucoup de mécontentement. Et là, j'ai eu plusieurs maires qui me disaient, mais on vient me voir les gens qui sont gens tout à fait favorables au mouvement dit mais nous on veut quand même pas porter atteinte à la vie sociale dans notre petite ville, on veut pas être regardés comme des gens qui apportent du trouble. On est d'accord avec vous, et dit moi je sais qu'il y a des gens qui iront demain au marché avec un gilet jaune pour dire on n'est pas content, c'est une manière de pas être content. Mais qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? Ils vont pas faire comme les Black Blocs, ils vont pas casser, ils vont pas mettre le feu au magasin.
Non, c'est pas des... beaucoup le disent d'ailleurs au 39 voilà. Sont des primo manifestants.
Donc ce sont des primo manifestants, et qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent montrer, c'est que leur mécontentement, les gilets jaunes, c'est ça va être la couleur du mécontentement. Et s'il y en a partout, on va dire là faut faire attention à nous. Bon, mais je veux dire ils peuvent pas non plus se lancer dans des actions de violence parce que c'est aussi réversible. Je veux dire c'est
vous dites que ça peut se retourner contre eux
mais
aussi.
Mais oui, ça peut se retourner.
Ils veulent pas le chaos ceux qui veulent descendre dans la rue. À mon avis, il y en a peut-être quelques-uns qui veulent le chaos. Il y en a peut-être une petite minorité.
Toujours.
Mais la globalité de ceux qui se sont jusqu'à présent exprimés, ils ne veulent pas le chaos. Ils veulent donner un coup, un énorme coup de cymbales.
Alors, est-ce que c'est en bloquant une ville pendant des heures
Mais on est d'accord, on est parfait. Moi, je comprends très bien, si tu veux, le souci de ceux qui, tout en voulant participer, se disent, est-ce qu'on ne va pas finalement aller plus loin dans cette jacquerie numérique ?
Pas que la jacquerie devienne la chienlit, comme
il y a un phénomène parallèle qui est identique en réalité à cette jacquerie numérique, justement. C'est celle des maires, c'est celle des élus. Il y a 36 000 communes en France. Plus de 15 000 maires ne vont pas se représenter.
Et même des adjoints
du conseil municipal ne veulent pas. Pourquoi ? Parce que je discutais avec d'ailleurs mon frère, qui était maire à Mandelieu, etc., et qui, sans arrêt, je l'ai entendu, c'était fatigant d'ailleurs au cours des repas de famille, parce qu'il était écrasé par les normes.
Il était écrasé,
il me parlait de taxonite aiguë. Il me dit, mais tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte tout ce qu'on peut payer, en plus tout ce qu'on nous enlève. On vient d'enlever d'ailleurs au maire une 6 millions d'euros de revenus que donnait l'État, parce que les mairies et les communes se substituent de plus en plus à l'État. Et donc, il faut aussi savoir simplement cette notion pour ceux qui vont participer demain, c'est que pour 100 euros de dépenses de carburant, ce sont 70 euros de taxes qui sont perçues par l'État.
19h47.
Europe 1.
Vous restez sur Europe 1, cette question des taxes aussi. Moi, je trouve ça. On va revenir aussi sur ce que disait Charles Villeneuve sur les maires et sur le fond aussi de ce mouvement, cette espèce de ras-le-bol général, ce qui veut un peu tout et rien dire. Mais il faut bien aussi être lucide. Il n'est pas que question de carburant dans la mobilisation de demain. 19h47, n'hésitez pas, restez bien avec nous sur Europe 1. Composez le 39-21, on revient avec les grandes voix.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 et les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir. Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Notre dernière séquence, dernier tour de table. Gérard Carrérou, on parlait taxite, hein, c'est le terme que vous avez utilisé, Charles.
Taxonite.
La taxonite, on dirait. Soit une pierre précieuse, soit une maladie. Gérard Carrérou, ras-le-bol, il dépasse le carburant.
Bien sûr que ça dépasse le carburant. Il y avait eu un grand espoir en élisant un jeune président qui tenait des propos assez nouveaux, novateurs sur un certain nombre de sujets. Une bonne partie de la population, après tout, il a été élu par les deux tiers des Français au deuxième tour. Une bonne partie de la population a pensé que ça va être le grand changement, il va nettoyer quand même un certain nombre de réglementations, de taxes en permanence qui se surajoutent les unes aux autres, etc. Et il va enfin nous débarrasser de cette dictature de la haute administration, de Bercy et de tout ce qui s'y rattache. Et effectivement, ce grand espoir qui est né à ce moment-là est en train d'être déçu. Les gens se disent, mais non.
Mais il n'est pas mort encore.
Il n'est pas mort, mais il n'y a pas les résultats pour l'instant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut. Ce grand mouvement, il aurait peut-être, après tout, peut-être que le président de la République s'en sortira plutôt bien dans un an. Mais, ou peut-être il aura rien entendu et dans ce cas-là il s'en sortira plutôt mal dans un an. Mais en tout cas, ce mouvement dit, il faut changer beaucoup de choses. Et pas seulement nous parler de grandes réformes, il faut que dans notre quotidien, les choses changent. Et par exemple, le coût des 5 centimes sur le carburant, ça a été à la fois le prétexte et c'est effectivement quelque chose que les gens ont compris. Mais comment on se fiche de nous? On va pas payer deux fois.
Catherine.
Oui, surtout que là, cette augmentation de l'essence, on a habillé en vert une taxe sans lui donner une utilité concrète. On dit qu'il faut changer de quotidien, revoir le quotidien. Mais en même temps, alors qu'on fait payer plus cher l'essence, eh bien on ferme des lignes de chemin de fer qui, elles, étaient vraiment pour l'usage du quotidien. Vous voyez, c'est des choses comme ça, sur le terrain, qui, ajoutées les unes aux autres, agacent. Regardez que lorsque le président...
L'incohérence aussi.
L'incohérence, voilà. Quand Macron a été élu, sa première... mesure, ça a été de rogner les APL, les aides pour le logement, les 5 euros, alors on disait c'est rien, qu'est-ce qu'on fait avec 5 euros, c'est rien du tout. Bon, alors on saucissonnait à chaque fois quelque chose, après c'est les retraités, on leur a dit votre retraite va baisser, et ça n'a pas de cohérence, on fait des choses comme ça, on sent que c'est Bercy qui est derrière, qui essaie de prendre l'argent où elle est, de tirer les ficelles, et les gens ne comprennent pas, et ces choses, c'est, on leur dit vous allez avoir plus, et ils voient que c'est de moins en moins, moins par-ci, moins par-là, vous voyez, et donc c'est ça, on dit c'est ça qui crée le malaise et l'impression, en tous les cas dans la France rurale, loin des villes, où il y a plus de les CDI sont plus rares, que c'est toujours sur les mêmes que ça repose.
Mais oui, parce qu'ils ont vu qu'on n'avait pas diminué les dépenses de l'État,
ah oui,
et que c'est pour ça qu'on est obligé de combler, parce qu'on n'a pas touché aux dépenses de l'État, il faut aller chercher de l'argent.
Charles Villeneuve. Alors,
oui, pardon.
Vas-y.
Non, pour le président de la République, pour Emmanuel Macron, il y a du boulot. Il y a un sacré boulot, parce qu'il faut savoir que dans notre pays, on a entre 250 et 300 taxes, différentes selon l'IFRAP, et quand l'Allemagne n'en compte que 26. Bon. Et aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à l'augmentation de cette taxe sur le diesel, etc., il y a quand même une aberration qu'on est en train de vivre, et on verra si on la vit en masse demain, et avec les gilets jaunes. Cette hausse des taxes sur les carburants s'inscrit dans une fiscalité écologique, d'accord, censée dégoûter les Français de prendre leur voiture, notamment celle qui marche au diesel. Eh bien, cette fiscalité écolo, elle frappe surtout les bobos parisiens. Mais on croyait qu'elle allait frapper les bobos parisiens. Or, demain, qui va se rassembler? Sans doute nombreux. Eh bien, les ruraux et les ménages de la classe moyenne. Parce que c'est eux qui paient finalement le plus cette taxe.
Beaucoup de suspense, beaucoup de suspense.
C'est pas le Boboland.
Dernier mot, Gérard.
C'est pas le Boboland à patinette de certains arrondissements de Paris qui va être le plus dans la
électrique.
Rue demain. Oui, le Boboland à patinette.
On bloque pas une nationale avec une trottinette électrique, en tout cas. On verra.
Le président, jusqu'à présent, il guérit pas en touchant les Français, les écrouelles.
Non, pas encore. Pas encore, même si bon. Il est 19h54. Il reste plus qu'à voir. C'est demain. Et demain, si vous voulez vous déplacer, vous vous rendrez aussi sur europe1.fr. J'appelle vraiment nos auditeurs à garder ça en tête si vous avez besoin. europe1.fr, c'est de l'info pratique. Demain de 6h à minuit, en temps réel, vous serez informé des principaux points de blocage.
C'est vous qui serez là,
Non, demain. Mais j'en suis presque venu à le regretter. Demain, le grand journal du soir, ce sera avec Philippe Vandel pour faire le bilan, évidemment, de cette journée de mobilisation du 17 novembre. Et aller les bleus ce soir. Bah tiens, Lionel Rousseau est déjà là. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Mathieu.
Quelle
bonsoir
transition,
à tous.
Merci Charles Villeneuve. Les oranges contre les bleus.
Pays-Bas France, en effet, les Français avec Didier Deschamps qui a aligné 10 champions du monde. C'est du classique, sans surprise, mais ça peut être efficace pour se qualifier dans cette Ligue des Nations. On suit le match avec nos débats ce soir.
Merci aux grandes voix d'avoir été avec nous. Je les ai pas salués, Catherine Ney, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve. Merci à vous toutes et tous d'avoir appelé extrêmement nombreux ce soir au 39-21. On reparlera de tout ça à lundi, vous le savez bien. Bon week-end. Omblin, à lundi.
Merci, à lundi Mathieu Béliard, 17h, dans un instant l'information avec Isabelle Millet sur Europe 1. Europe 1.